Dans un bourg fortifié de montagne, perché comme un nid d'aigle, vivait une femme admirable de visage et de cœur. Cette citadelle s'appelait Béthulie. Seuls, les marchands et les soldats connaissaient ce coin perdu à cause d'un puits qui donnait une eau merveilleuse. Ce jour-là, le roi des ennemis, il se nommait, je crois, Nabucodonosor, convoqua son armée sur le parvis du palais. Il avait placé à la tête de ses cavaliers le général le plus fameux du temps et connu par toute la terre, Holofernes, qui portait une cuirasse sculptée et une lance de toute beauté. Il dominait tous les autres cavaliers et sa voix faisait frissonner les cèdres des montagnes. Le roi prit la parole.
« J'exterminerai tous les peuples qui refuseront de se prosterner devant moi pour m'adorer. »
Aussitôt, des messagers hébreux repartirent de Ninive pour avertir les habitants de Jérusalem et des environs.
Le roi marche contre notre capitale.
Il saccage tout sur son passage.
Il tue les femmes et les enfants.
Il réduit les hommes en esclavage.
Allez vous cacher dans vos montagnes.
Les citoyens de Béthulie barrèrent les portes de leur place forte, baissèrent la herse et remontèrent le pont-levis. Averti par ses espions, le général Holofernes demanda
« Où donc se trouve cette forteresse mystérieuse qui prétend nous résister ? Et pourquoi donc ce peuple de montagnards ne s'est-il pas rendu comme les autres au grand roi ?»
Le lendemain à l'aube, Holofernes sortit de sa tente revêtu de sa cuirasse. Un soldat le précédait, portant son bouclier.
« Rassemblement immédiat ! Nous attaquons Béthulie ! »
L'armée de Nabucodonosor comprenait 120 000 fantassins et 12 000 cavaliers. Jamais les Hébreux n'avaient vu pareil déploiement de force. Le camp occupait toute la plaine. Les estafettes partirent repérer les cheminements et les défenses. Ils firent un rapport pessimiste.
Cette citadelle est pratiquement imprenable.
Il faudra des mois de siège.
Holofernes donna cet ordre.
Faites garder toutes les sources pour leur couper l'approvisionnement en eau. Quand leurs réserves seront épuisées, ils capituleront d'eux-mêmes.
Après 34 jours de siège, les citernes et les jarres de Béthulie étaient vides. Les enfants tombaient d'inanition dans la rue et les nourrissons mouraient dans les bras de leur mère. Alors, la terreur se répandit sur la ville. Le conseil des chefs se réunit. On décida de se rendre à l'ennemi pour éviter l'extermination. Apprenant ce projet de capitulation, Judith, la femme la plus belle et la plus considérée de Béthulie, demanda à parler aux membres influents de la commune.
Écoutez-moi, chef de Béthulie. Si vous livrez la ville, toute la nation périra. Nos frères seront déportés, nous deviendrons esclaves, et notre Dieu nous laissera dans la honte. Pour l'honneur de Yahvé, formons un rempart au-devant de notre nation.
Que le Seigneur t'inspire, Judith, et soutienne tes intentions.
J'accomplirai un geste que l'on racontera de génération en génération. Venez ce soir aux portes de la ville. Je sortirai en habit de fête, accompagné de ma fidèle servante. Et maintenant, écoutez. À la date que vous aviez fixée pour remettre à l'ennemi les clés de la ville, Dieu visitera son peuple. Ne cherchez pas à deviner mon projet.
Judith se para comme on fait au jour de noces. Elle revêtit un costume d'apparat, chaussa des sandales brodées, passa lentement ses colliers, ses bracelets, ses pendants d'oreilles, ses bagues de fir. Puis, elle appela sa servante.
Prends une outre de vin, une cruche d'huile, des galettes et des gâteaux aux fruits secs.
Les deux femmes sortirent de Béthulie. Les chefs de la ville gardaient la porte. À la vue de Judith, émerveillés de sa beauté, ils furent soulevés d'un immense espoir.
Que Dieu accompagne Judith et que vive Jérusalem!
Longtemps, en ce soir de pleine lune, les gardiens des remparts suivirent les deux femmes des yeux. Elles disparurent enfin à l'horizon. Soudain, les soldats d'Holoferne surgirent.
Halte là! Qui êtes-vous?
Je suis Judith de Béthulie. Je m'enfuis avec ma servante. Carlo ment, et nous allons tous mourir. Je veux voir votre chef, Holoferne, pour lui donner des renseignements qui abrégeront les souffrances de tous. Je lui indiquerai un passage secret. Il prendra la ville sans qu'il y ait un seul mort, ni dans un camp, ni dans l'autre.
La sentinelle de Holoferne laissa entrer Judith. Le général se reposait sur un lit surmonté d'un baldaquin pourpre et or, incrusté de pierres précieuses. Judith se prosterna.
Relève-toi, femme de Béthulie. Ne crains rien. Je ne suis pas un homme méchant. Si ton peuple ne m'avait pas lancé un défi, je n'aurais pas levé les armes contre lui. Sois donc la bienvenue, fille d'Israël, dans le camp de Nabuchodonosor, le roi des rois.
J'ai résolu de m'enfuir pour ne pas voir mourir nos enfants. Permets que je demeure auprès de toi. Le soir, j'irai dans le ravin m'asperger d'eau selon notre coutume. Je prierai pour entendre la volonté de mon Dieu. Quand je saurai que le moment est venu, je te ferai signe et tu lanceras tes troupes en avant. Mon Dieu te livrera lui-même Béthulie. Et tu entreras en triomphe dans notre capitale, Jérusalem.
Holoferne voulut que Judith prît place à côté de lui, à sa table, mais elle refusa.
Je craindrai de déplaire à mon Dieu. J'ai apporté des provisions pour manger selon notre coutume.
Judith se retira. Elle dormit jusqu'à minuit, puis se leva pour aller prier au bord de la rivière. Elle fit ainsi trois nuits de suite. Elle allait au torrent, se lavait, puis rentrait au camp. Le quatrième jour, Holoferne fit servir un festin. Il envoya un messager porter une invitation à Judith.
Accepteriez-vous de venir vous asseoir à la table d'Holoferne?
Qui suis-je pour refuser un tel honneur?
Judith se leva, revêtit sa robe de fête, se para de ses bijoux les plus riches et se rendit au banquet. Holoferne fut subjugué par la splendeur de son invité et manifesta son enthousiasme.
Les chansons, verse-nous encore du vin. Je veux en une seule soirée goûter à la joie d'une vie entière.
Au dessert, le général était ivre-mort. Bogoas, son aide de camp, fit sortir tous les convives et laissa Holoferne seul avec Judith. Elle s'excusa.
Je sortirai tout à l'heure pour me rendre à la prière et me laver le visage, comme il est prescrit par la loi de mon Dieu.
Holoferne cuvait son vin, affalé sur le lit. La femme s'avança lentement. Prit le cimetière qui pendait au mur, s'approcha du général ivre-mort. Elle saisit sa chevelure à pleine main et par deux fois frappa de toutes ses forces. La tête d'Holoferne se détacha et roula au pied du lit. Judith la jeta dans son panier qu'elle recouvrit d'un linge. Elle sortit alors du camp avec sa servante, saluée comme à l'accoutumée par les gardes. Toutes deux traversèrent le ravin et gravirent la montagne vers Béthulie. Les guetteurs des remparts crièrent
« Ouvrez les portes! Le Seigneur nous a délivrés !»
Judith s'en va dans le soir avec sa jeune servante.
La peur, mais aussi l'espoir, trouble son âme innocente. Pour délivrer son pays, parfois une fille sage vaut mieux contre un ennemi que mille soldats en armes. Fidèle comme elle, nul ne l'a plus été. Fidèle et belle comme un soleil d'été. Fidèle et sûre comme sont les saisons. Fidèle et pure sans nulle trahison. Le chef du camp ennemi, la voyant si séduisante, la salue et lui sourit, puis l'invite sous sa tente. Buvez, buvez général, ne suis là que pour vous plaire. Le vin, ça ne fait pas mal, demain vous ferez la guerre. Fidèle comme elle, nul ne l'a plus été. Fidèle et belle comme un soleil d'été. Fidèle et sûre comme sont les saisons. Fidèle et pure sans nulle trahison. Il a bu jusqu'au matin, il a bu jusqu'à l'ivresse. Alors, un sabre à la main, Judith lui trancha la tête. Aussi blanche que le jour, elle revient à Béthulie, qui fut sauvée pour toujours de son cruel ennemi. Fidèle comme elle, nul ne l'a plus été. Fidèle et belle comme un soleil d'été. Fidèle et sûre comme sont les saisons. Fidèle et pure sans nulle trahison.
À l'aube, on entendit dans les rangs ennemis une vaste clameur.
Holofernes est mort! Une femme lui a tranché la tête! Nous sommes perdus!
La panique s'empara de toute l'armée. Les soldats de Nabuchodonosor s'enfuirent, poursuivis par les hommes de Béthulie et de Jérusalem. Les Hébreux, depuis cette journée mémorable, chantent un cantique que l'on appelle l'hymne de Judith.
Des nuées d'ennemis dévalent les montagnes. Dans nos rangs, nous n'avons ni héros ni géants. Ce n'est point notre armée qui gagne la bataille. Le Seigneur brise la violence et la guerre par les mains d'une femme. À la vue de Judith, les Perses tressaillirent. Au seul cri de nos pauvres, les mêles disparurent. Soudain, de Béthulie a surgi l'espérance. Le Seigneur brise la violence et la guerre par les mains de femmes.
Trois mois durant, tout le peuple de Jérusalem dansa sur la place du Temple. Puis, chacun rentra chez lui. Judith revint dans sa ville et cultiva son domaine. Elle insta célèbre dans tout le pays. Le soir, dans les montagnes, à la veillée, on racontait l'exploit de la belle contre le guerrier, du cœur contre la force et de l'espérance contre la mort. Longtemps après l'exploit de Judith, une autre héroïne d'Israël sauva son peuple de la catastrophe. Elle s'appelait Esther et avait été déportée avec son oncle Mardoché à Suse, capitale du roi de Perse, Assuérus. À force de sagesse et d'habileté, Mardoché était devenu conseiller d'Assuérus. Ce roi s'était fâché avec sa femme et l'avait renvoyée. Pour la remplacer, il fit convoquer à son palais les plus belles filles du royaume. L'oncle Mardoché convoqua sa nièce.
Esther, par toi Dieu peut sauver son peuple. Tu vas être présentée au roi Assuérus et Dieu disposera de notre sort.
De toutes les jeunes filles qui furent amenées au roi, aucune ne lui plut. Enfin parut Esther. Elle fut immédiatement élue, car elle surpassait de loin les autres concurrentes en beauté et en grâce. Assuérus se leva et posa sur sa tête le diadème royal.
Tu seras désormais reine de ce royaume.
Mardoché vivait au palais et commandait à la garde de la grande porte. Un jour, il surprit la conversation de deux gardiens qui complotaient contre Assuérus. Il fit son rapport au roi sur cette conspiration.
Écrivez sur mon livre de chroniques ce qu'a fait Mardoché, l'hébreu,
ordonna le monarque à ses secrétaires. Vivait également au pays un homme qui se nommait Aman. Le roi, pour le récompenser de services passés, l'avait nommé intendant de sa maison. On devait, à son passage, se prosterner devant lui. Mardoché refusa de se plier à cet ordre humiliant. Aman, vexé, décida de le faire périr et tout le peuple hébreu avec lui.
Je ferai signer au roi leur arrêt de mort.
Il joua au dé pour connaître la date propice à ce massacre. Le sort désigna le 14e jour du 12e mois. Aman obtint une audience dans la salle du trône.
Grand roi, il est de ton intérêt et de celui de la nation que disparaisse ce peuple mal intentionné et qui méprise nos lois.
Assuérus signa le décret de mort. Toute la ville fut plongée dans la consternation en entendant le crieur public annoncer la sentence. Mardoché pria longuement, puis envoya un messager porter à sa nièce l'édit d'extermination.
Demande au roi de déchirer sa sentence.
Esther fit transmettre sa réponse.
Depuis un mois, je n'ai pas été invitée dans l'appartement d'Assuérus. Or, il est interdit à la reine, sous peine de mort, d'entrer chez le roi sans avoir été appelée par lui.
Penserais-tu sauver ta vie et nous laisser périr?
J'irai donc chez le roi. Et s'il le faut, je mourrai.
Après avoir prié durant 3 jours, Esther frappa à la porte d'Assuérus. À sa vue, le roi devint rouge de colère. Esther s'effondra. À cet instant précis, Dieu retourna le cœur du monarque.
Esther, sois sans crainte. Je suis ton ami. Tu ne mourras pas.
Il posa son sceptre d'or sur les épaules de la reine.
Dis-moi ce que tu désires. Serait-ce la moitié de mon royaume, je te l'accorderai.
Accepterais-tu, ô roi, de venir au festin que j'ai préparé, en compagnie d'Aman, ton conseiller?
D'accord, ma reine.
Au cours du repas, Assuérus se pencha vers Esther et lui répéta
« Dis-moi ce que tu désires, je te l'accorderai. »
« Viens encore demain, en compagnie de ton conseiller. »
Aman se dit en lui-même,
« Je suis l'homme le plus fort de la terre, puisque je suis l'ami du roi. Je peux donc me venger de l'homme qui m'a méprisé. »
Il fit planter une potence à l'entrée du palais pour que Mardochée y soit pendu le lendemain. Or, ce soir-là, Assuérus ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il se fit apporter le livre où est écrite l'histoire des rois.
Je lis dans mes archives que Mardochée m'a sauvé la vie en démasquant un complot. A-t-on récompensé ce serviteur fidèle ?
Aman venait de frapper à la porte du roi. Celui-ci l'interrogea.
Sage conseiller, comment traiterais-tu un homme que le roi voudrait combler d'honneur ?
Aman pensa.
Qui donc d'autre que moi le roi pourrait-il vouloir honorer ?
Alors il déclara.
Je sais ce qu'il convient de faire pour honorer l'ami du roi. Il faut le revêtir d'habits princiers, comme ceux du roi. On lui amène un cheval, l'un de ceux que monte le roi. On met un diadème sur le front de l'ami du roi. Ensuite, l'un des écuyers du roi conduit le cortège et crie « C'est ainsi que l'on traite l'ami du roi. »
Ne perds pas une minute, Aman. Prends une tenue de prince, selle un cheval de mon écurie, choisis le plus beau diadème de mon trésor et offre le tout à Mardochée, l'hébreu qui m'a sauvé la vie.
Aman, consterné, dut exécuter l'ordre d'Assuérus. Il comprit que sa disgrâce avait commencé. Déjà, les serviteurs de la reine frappaient à la porte d'Aman pour le prier de se rendre au festin. Au cours du banquet, le roi se pencha encore vers Esther.
Reine, demande-moi ce que tu désires. Je te donnerai tout ce que tu voudras.
Écoute, ô roi, les paroles d'une femme qui a trouvé grâce à tes yeux. Je ne demande qu'une seule chose, la vie pour mon peuple. Car voici que nous sommes voués à l'extermination.
Et qui donc, ma reine, est le meurtrier de tout ton peuple?
C'est ce misérable qui porte la main à ton plat. Oui, c'est Aman, l'assassin d'Israël, ma nation.
Assuérus, hors de lui, quitta le banquet. Lorsqu'il revint, il trouva Aman affalé sur le divan où la reine s'était étendue.
Prêtre, en plus la croix,
à un signe du roi, les serviteurs posèrent un voile sur le visage d'Aman. C'était la coutume dans ce pays. On jetait un voile sur la face des condamnés à mort. Esther se contenta d'ajouter.
Sire, Aman a fait préparer une potence pour ton serviteur Mardochée.
Eh bien qu'on l'y pende lui-même.
Sur le champ, on retira l'anneau du doigt d'Aman et on le passa à celui de Mardochée. On hissa ensuite Aman sur la potence. Une seconde fois, Esther pénétra dans la salle du trône.
Comment pourrais-je, ô roi, supporter l'extermination de tout mon peuple ? N'as-tu pas signé l'arrêt de mort ?
J'annule la sentence.
Assuérus déchira le décret fatal. Esther se retira pour remercier Dieu d'avoir sauvé les condamnés.
Du pays de Perse, autrefois, une très jeune fille juive qu'aimait à ce qu'on dit le roi. Sous les plis roses de sa robe, battait un cœur ardent et fier, elle était fraîche comme l'aube, et portait le prénom d'Esther.
Dans un palais vit un amour en cage, un amour de roi. La vie de reine est aussi un bagage, bien lourd quelquefois. Il ne suffit pas toujours d'être sage lorsqu'on aime un roi. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va.
Alors que le premier ministre faudrait bien faire massacrer le peuple juif, Esther plus triste que l'oiseau qui se sent blessé. Esther chez le roi se présente au grand risque d'être abattue et de périr bien qu'innocente, avant même d'être entendue.
Dans un palais vit un amour en cage, un amour de roi. La vie de reine est aussi un bagage, bien lourd quelquefois. Il ne suffit pas toujours d'être sage lorsqu'on aime un roi. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va.
Voyant ainsi forcer sa porte, le roi un moment fut surpris. Il dit qui ose de la sorte venir sans ordre à mon logis. Mais en apercevant la reine si pâle qui le suppliait d'épargner les juifs, le roi cède et fait pendre son conseiller.
Dans un palais vit un amour en cage, un amour de roi. La vie de reine est aussi un bagage, bien lourd quelquefois. Il ne suffit pas toujours d'être sage lorsqu'on aime un roi. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va. Il faut aussi que l'on ait du courage quand plus rien ne va.